une question ce soir. Poutine a-t-il peur pour sa vie ? Oui, répond l'un des conseillers de Volodymyr Zelensky, conseiller ukrainien Alexei Arestovitch, qui dit ceci. Poutine a peur pour sa vie, il ajoute, s'il perd la guerre, au moins dans l'esprit des Russes, ça veut dire que c'est la fin pour lui au sens politique et même possiblement au sens physique. C'est ce qu'il dit dans le Times ce soir, Ulysse Gosset, Poutine a peur pour sa vie. Là, Arestovitch, on est dans la propagande ukrainienne. Mais est-ce que, de fait, la vie au moins politique de Poutine est menacée avec cette guerre ?
Poutine a toujours eu une attitude paranoïaque face au Covid d'abord. Pendant les 2 ans de Covid, il a été ultra protégé, il était réfugié dans sa datcha, et on dit même qu'il y avait un couloir avec des projections de gel anti-Covid pour le protéger, et tous ceux qui l'approchaient devaient passer une semaine en quarantaine avant de le voir. Donc il y a eu cette paranoïa au moment du Covid, et là, évidemment, il est bien conscient de la difficulté de la situation, c'est-à-dire qu'il voit bien que la guerre ne fonctionne pas. Est-ce que ça veut dire qu'il est vraiment menacé ? Il est tellement bien protégé, si j'ose dire. Il a même un sosie, Poutine, hein, vous savez. Donc, il a une garde rapprochée qui lui est fidèle et qui, évidemment, est très organisée. C'est quand même l'homme qui a dirigé le KGB, puis le FSB. Enfin, c'est l'homme des services de renseignement. Donc, c'est normal, dans son esprit, qu'il pense à chaque moment qu'il y a peut-être un Brutus derrière son épaule. Oui, il est sans doute effectivement l'objet de machinations, de complots, etc. Mais pour l'instant, il est au pouvoir. Et donc, que fait un homme au pouvoir comme lui ? Il se protège, il part à tous les coups et il s'entoure de fidèles qui s'assurent que sa vie ne peut pas être menacée. Et d'ailleurs, il y a eu des exercices, on va peut-être le voir ce soir, des exercices de ses forces spéciales, de sa garde spéciale, pour mettre au point des scénarios au cas où il y aurait une tentative de putsch contre Poutine.
Pauline Simonet, on peut en dire un mot de ces exercices. On y reviendra plus en longueur, effectivement, dans la soirée. Mais effectivement, fin octobre, les Russes ont vu autour du Kremlin ces exercices où précisément, oui, c'était le FSO, la garde rapprochée de Poutine, qui s'entraînait dans l'éventualité d'un mauvais coup, d'un coup d'État.
Exactement, des exercices militaires en plein centre de Moscou, effectivement. Alors officiellement, ils se préparaient à une éventuelle attaque terroriste, donc finalement des réparations qui peuvent être assez habituelles. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que révèle de Insider, c'est qu'en fait, plus qu'une attaque militaire, ils se préparaient à une attaque psychologique. Vous parliez des gardes du Kremlin. Eh bien, notamment, il y a tout un plan qui a été mis en place avec toute une série de mesures qu'il faut mettre en place. Et ils craignent notamment que des gardes du Kremlin soient hypnotisés par des ennemis de l'intérieur ou de l'extérieur. Et il y a tout un plan qui est mis en place pour faire face à tout ça. Alors, c'est une guerre psychologique en général qu'ils craignent. Donc, évidemment, pour faire face à ça, il y a de la propagande dans les médias qui doit être mise en place. Mais il y a aussi une sorte de propagande auprès des officiers, des militaires. Dans ce plan, on propose d'emmener plus régulièrement les officiers à des réunions religieuses, notamment à des visites de la cathédrale. On propose d'emmener ces officiers une fois par semaine, au moins, à des réunions politiques où ils sont censés notamment connaître l'histoire de leur pays, l'histoire du Kremlin. Et puis donc, il y a toute cette dimension psychologique. Il faut repérer quels sont les officiers qui sont les plus vulnérables, ceux qui sont trop fragiles, qui ne répondent pas bien aux questions. Eh bien, il faut les emmener tout simplement à l'hôpital. Et celui qui est en charge de tout ça, eh bien, il paraît qu'il est conseillé par toute une série de psychologues et d'astrologues également.
Oui, d'astrologues aussi, effectivement.
Dans l'article précisément qu'on citait tout à l'heure, le conseiller Zelensky, il lit en fait sur le Poutine à l'idée qu'il perde la guerre. Il dit, il n'y a pas de tsar qui perde la guerre, qui puisse rester au pouvoir. Donc, aujourd'hui, peut-être qu'il n'est pas menacé, mais la perspective qu'il trace, lui, et la raison pour laquelle il pourrait y avoir une inquiétude, c'est ces défaites successives de la Russie qui donnent le sentiment qu'il est en train de perdre sa guerre. Et si, c'est son hypothèse, si la Russie perd la guerre, Poutine n'y survivrait pas. C'est l'hypothèse que fait cet Ukrainien.
Oui, mais Poutine n'a pas encore perdu la guerre et pour l'instant, il est solidement installé. Et vous savez pourquoi ? Parce que les gens autour de Poutine lui doivent tout. Et donc, lui, il est l'homme qui organise le pouvoir entre les services secrets, le ministère de l'Intérieur, les militaires et les oligarques. Donc, tous ces premiers, deuxième cercles qui sont autour de lui doivent tout et ils savent très bien que si Poutine disparaît, ils disparaîtront avant lui.
Et
donc
en même temps,
ça exclut l'hypothèse d'un putsch de l'intérieur et en même temps, Et en même temps, l'histoire russe est faite...
S'il perd la guerre, il peut rester au pouvoir.
L'histoire russe est l'histoire globalement de tous ces régimes dictatoriaux. Il y a toujours cette crainte que ça vienne, parce que les oppositions extérieures, elles ont été laminées, elles ont été envoyées justement à l'étranger, elles ont été mises en prison, mais la crainte de tous ces régimes, que ce soit en Afrique, en Asie, en Russie, c'est que ça vienne de l'intérieur. Mais c'est vrai que Vladimir Poutine, ce qu'il a fait de manière assez intelligente, c'est d'essayer d'opposer justement, que ce soit les gangsters, les Kadyrov, les Prigojine, les opposer aux Siloviki, ceux du membres des services secrets et des services militaires. Et puis, il y a ces oligarques et ils les opposent les uns aux autres en espérant que ça permette de le protéger.
Quand même. Surtout, qu'est-ce que ça veut dire perdre la guerre ? Il a déjà perdu la guerre d'une certaine manière. Il a perdu les objectifs. Il a perdu la bataille de Kiev. Il n'a pas réussi à renverser Zelensky. L'armée ukrainienne a reconquis même des territoires russes annexés. Donc, il a déjà perdu. Mais en fait, il est toujours là. Et comment dire s'il a perdu? Pour l'instant, les Russes considèrent qu'il est toujours l'homme de la situation.
J'ai vu un sourire tout à l'heure quand Pauline Simonet, sur votre visage, quand Pauline Simonet... Oui, non, mais quand Pauline parlait effectivement de ces services qui cherchent un peu le maillon faible et qui craignent que l'un d'eux soit éventuellement hypnotisé.
Oui, alors bon...
Si, vous avez souri tout à l'heure.
Oui, forcément. Mais mais je veux dire, par exemple, dans les services israéliens, il y a un certain nombre de psychologues dont le job, c'est de surveiller. Enfin, dans les aéroports, vous avez des gens qui surveillent le comportement des individus pour déceler celui qui a un comportement qui n'est pas normal. Moi, quand je suis allé en Israël, à chaque fois, je suis tombé sur moi, j'ai été interrogé par un psychologue pendant... Oui, plusieurs fois, oui. Donc c'est pas nouveau. Maintenant, pour revenir, il ne faut pas oublier que Vladimir Poutine a créé la garde nationale, dirigée par Viktor Zolotov, son ancien garde du corps, c'est pas pour rien, pour comme garde prétorienne quoi. Sa garde rapprochée, elle vient pas des hommes du FSB ou du GRU, hein, surtout pas, parce que ce sont des puissances qui éventuellement sont menaçantes. Dont elle vient de ce qu'on appelle les sauveurs, elles viennent de la garde nationale. Donc c'est vraiment des fidèles, ce qui montre bien qu'il y a quand même un peu une inquiétude. Mmh. Donc la possibilité de effectivement, chaque défaite est un ébranlement pour les Russes. Une multiplication des défaites, sans même peut-être arriver à la Crimée, peut susciter suffisamment de troubles internes pour provoquer un choc. Maintenant, bon, les assassinats, le dernier politique soviétique qui a été assassiné, autant que je me souvienne, c'est Beria. Ça date de 1953. Depuis cette époque, on a des méthodes un peu plus élégantes. Mais bon, toujours revenir...
Lui semble montrer, en tout cas, qu'il se sent menacé. Parce que organiser ces opérations à ciel ouvert, où les Russes pensaient même qu'il y avait une attaque terroriste ou un coup d'État au moment où ça s'est produit, c'est quand même vouloir envoyer un signal manifeste du genre, venez me chercher si jamais vous voulez me faire chuter, mais je me défendrai. Il y a quand même une démonstration de force qui montre quelqu'un qui est plutôt sur la défensive que totalement sûr de son assise.
Alors, moi, si vous me permettez, colonel, j'ai une question de Béotienne. Ulysse disait à l'instant, il va de défaite en défaite, et on voit bien, sur Kiev, et on le voit sur Kherson, etc., etc. Jusqu'où faudra-t-il aller en termes de signaux de défaite pour qu'à un moment, en fait, on arrive à la fin de cette guerre ? C'est tout l'enjeu, en fait.
C'est extrêmement prévisible.
Il n'y a rien qui pourrait conduire à ce qu'à un moment, on dise, bon, allez, stop, c'est fini.
Comment dire ? Alors, oui, il est vrai que dans l'histoire russe, si on remonte depuis 1905, la guerre russo-japonaise, chaque fois, chaque défaite provoque des ébranlements politiques à Moscou. Ça, c'est évident. Quelle sera la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, ou quel que sera le coup qui va provoquer le chaos, ça c'est extrêmement difficile à dire. Là on parle beaucoup de la Crimée, mais vous avez des choses sensibles, par exemple le Donbass, les républiques séparatistes. On va quand même oublier que c'est pour ça que la guerre a commencé officiellement, hein, c'est pour protéger ces républiques d'un soi-disant génocide et d'une offensive ukrainienne. Ces deux républiques, elles sont menacées avant la Crimée. Et qu'est-ce qui va se passer si d'un seul coup les Ukrainiens s'emparent de Donetsk, de Luhansk et plantent le drapeau ukrainien? Ça sera un coup, par exemple, qui sera très fort. Et la Crimée, bien sûr, alors c'est le nec plus ultra, quoi. Ça, c'est si perd la Crimée, ça c'est l'affront magistral, sachant que c'était pratiquement la guerre de Poutine, quoi. La grande victoire de Poutine.
On a beaucoup raconté la paranoïa de Poutine. On en a dit un mot tout à l'heure, Ulysse Gosset. On a dit dans une bulle depuis des semaines, etc. Hier, qui inaugurait à distance un brise-glace à propulsion nucléaire. Il est sorti aujourd'hui de sa bulle. Il est même sorti de son pays. Il est allé en Arménie aujourd'hui, Vladimir Poutine, arrivé en Arménie pour un rendez-vous avec des puissances alliées de la Russie. Il montre que, ben oui, il peut aussi sortir de son pays.
Oui, et d'une certaine manière, il est surprenant parce qu'il est resté plusieurs jours sans réagir après la défaite de Kherson pour les Russes. Et là, le voilà qui repart pour l'Arménie. L'Arménie, c'est un pays proche, c'est une visite assez facile à organiser. Mais cependant, ça démontre ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que même s'il y a des scénarios, aucun doute, pour essayer de le remplacer, de l'éliminer, etc., il reste au pouvoir, il reste sous contrôle. Et son déplacement démontre qu'il a encore confiance dans sa garde prétorienne, dans l'armée, même si les militaires sont les grands perdants de cette guerre, puisqu'ils perdent des hommes et des batailles. Mais les services secrets sont toujours très puissants. Et je rappelle que la Russie, aujourd'hui, est une véritable dictature où on n'a absolument pas le droit de manifester. Donc, il peut quand même, effectivement, se déplacer dans cette Russie qu'il contrôle encore.
Il y a un autre aspect qui est intéressant, c'est le président français qui a reçu le président ouzbek aujourd'hui, qui va recevoir le président kazakh la semaine prochaine et qui mène une offensive diplomatique pour essayer, justement, pour ceinturer un peu Vladimir Poutine, de décrocher un peu ces républiques satellites qui, pour certaines, n'ont pas reconnu les annexions de ces territoires-là, dans cette tentative d'isoler diplomatiquement un peu plus Poutine et d'essayer de raccrocher économiquement ces républiques à l'Europe plutôt que qu'elles restent des satellites de Poutine.